Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est le portrait d'une femme, une actrice extravagante, populaire. C'est le portrait d'un pays, la Turquie, des années 60 à aujourd'hui, traversée par quatre coups d'État. Et entre les lignes, c'est le portrait d'une fille née à Istanbul qui a fui pour venir s'installer en France et qui est rattrapée par l'histoire de son pays et de sa mère, cette comédienne de théâtre et de cinéma qui, par ses amours et ses choix, incarne à elle toute seule le destin d'une nation. Bonjour Sedef Esser.
Bonjour.
Cette histoire que je viens d'évoquer, c'est celle de votre roman intitulé « Trésor national » paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Une fiction, vous dont on connaît l'œuvre comme dramaturge, scénariste, metteuse en scène et aussi comédienne, et ce dans les deux langues, en turc et en français. Mais ici, c'est bien en français que vous écrivez, sans doute parce que votre narratrice vit à Paris depuis longtemps, où elle a visiblement voulu oublier tout de son passé et de son enfance, jusqu'à ce coup de téléphone où sa mère, hospitalisée, lui demande de rédiger son éloge funéraire. Et là, tout revient. Quel a été le point de départ de votre écriture, Sedef Esser ?
Justement, cette envie un peu mégalo d'une grande dame, d'une grande star, d'une diva, de mettre en scène sa mort, parce que je trouvais que c'était effectivement très théâtral, très digne d'une diva, de vouloir partir, de vouloir un départ édifiant, parce qu'en fait, elle a joué les grands rôles, les grands textes du répertoire. Elle s'est confrontée à Ibsen, à Brecht, à Shakespeare, aux grands dramaturges. Elle a aussi tourné dans des navets, ces mélos que le cinéma turc a produit par centaines, que j'ai bien connu. Et donc, elle veut que son départ soit édifiant, exactement comme sa vie. Et elle dit, si je laisse faire les gens du ministère de la Culture, ils vont pas y arriver, je vais tout organiser avant mon départ. Donc, elle va appeler ses amis, scénaristes, vidéastes, scénographes. Elle va dire, organisez-moi ça, le plateau du théâtre de la ville d'Istanbul sera parfait, 16 mètres d'ouverture, on posera mon cercueil au milieu, chacun va venir dire des textes, on va passer des extraits de mes films, etc. Et puis, il faut, ma fille, que tu écrives quand même quelque chose, parce que sinon ça va manquer, tu comprends. Et elle dit, mais ma mère, toujours aussi extravagante, elle se rend même pas compte de ce qu'elle me demande. Évidemment que je vais pas l'écrire, ce texte. Et pour pas écrire un texte d'une page, elle va écrire un roman de 350 pages. voilà à peu près mon point de départ. En même temps, j'avais pas tout ça en tête, bien sûr, hein. J'avais juste ces funérailles comme les noces de cette femme, c'est-à-dire exactement comme son mariage. Elle veut mettre en scène sa mort dans un théâtre parce que elle a cette envie, cet amour du théâtre. Et moi aussi, je voulais faire une déclaration d'amour à nos métiers, à notre art qui est malmené en ce moment, le théâtre, le spectacle vivant. Et donc voilà.
Donc Ezra Zaman, actrice que vous avez inventée, mais sans doute à partir d'un collage de différentes comédiennes, qui est surnommée la sultane du grand écran, qui est une star dans les années 60, une icône du cinéma turc. Il faut dire qu'on l'a peut-être en effet un peu oublié, mais à cette époque, le 7e art est particulièrement florissant en Turquie, ce qui n'est sans doute plus le cas aujourd'hui, et on en reparlera avec vous. En tout cas, une femme qui incarne une liberté totale, qui joue autant les classiques sur scène que les rôles populaires sur grand écran. Est-ce que c'est aussi de cette liberté joyeuse, artistique, qui existait avant, que vous avez voulu parler, Sedef Esser ?
Absolument, oui, tout à fait. Parce que j'ai connu une partie de... Évidemment, j'ai pas connu les années 60, j'étais enfant, mais les années 70, un peu. Le début, j'étais encore très petite. Mais il se trouve que comme la narratrice du livre, pour des raisons tout à fait autres, j'ai grandi sur les plateaux de cinéma et de théâtre. Donc, je connais bien ce monde. Et puis, je voulais avoir le même âge que la narratrice pour une raison très simple. Je voulais restituer ces images avec la mémoire de tel âge, par exemple, si j'avais vu un film à 8 ans ou si j'avais vu telle pub ou telle destruction de tel quartier à Istanbul, etc. Je voulais que mon âge corresponde à celui de la narratrice. C'est pour ça que j'ai voulu que la narratrice ait mon âge et que sa mère, cette actrice, cette grande diva, ait l'âge de ma mère. Donc, elle est née en 1934. Effectivement, je vois aussi ce que je vois aussi chez ma mère, cette liberté absolue qu'ils ont eue. Il faut peut-être que je romantise un peu, mais c'est vrai que j'ai ce souvenir-là des gens, enfin une bande de bohèmes dont dans lesquels il y avait des artistes, des intellectuels, mais aussi des gens enfin qui faisaient d'autres métiers, mais il y avait une liberté, oui, tout à fait.
Et Ezra tombe amoureuse d'Ishtak.
Oui.
Un jeune photographe qui lui est plus intéressé à couvrir les guerres que l'actualité mondaine, mais néanmoins ils sont réunis le temps d'une soirée et il y a une sorte de coup de foudre. C'est un couple a priori pas forcément assorti, mais qui s'aime profondément et qui donnera naissance en 1965, donc à une petite fille. Vous venez de le dire, c'est d'FSR, vous avez à peu près l'âge de cet enfant qui deviendra la narratrice, l'auteur de cette longue lettre à la mère qui n'est pas encore morte. Visiblement, vous n'êtes pas né de cette actrice et de ce photographe, mais vous disiez à l'instant que vous aussi, vous aviez grandi dans les coulisses et sur les plateaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce qu'on comprend mieux aussi d'où viennent tous ces souvenirs et peut-être d'où vient votre vocation de scénariste et de dramaturge et de metteuse en scène que vous êtes désormais.
Oui, enfin, ça, c'est ma vie de petite fille. Parce qu'en fait, cette femme a été une enfant vedette, hein, ce qu'on appelait à l'époque. Et elle a grandi sur les plateaux et elle est devenue la diva qu'elle est. Et il se trouve que moi, j'ai été enfant comédienne. Donc, du coup, j'ai fait, entre l'âge de 3 et 10 ans, j'ai fait 25 longs métrages. Donc, j'étais vraiment très, très connue étant enfant. Mais bon, après, j'ai pas eu du tout son destin ni sa carrière. Mais je voulais que mon personnage, enfin, mes deux personnages, cette actrice et ce photojournaliste, et des destins romanesques, bien sûr. Et un peu bigger than life, un peu vraiment quelque chose qu'on rencontre pas tous les jours, qui court pas les rues. Et je trouvais que photojournaliste aussi, c'est quand même un beau destin, et surtout dans ces années-là, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup documentée, et je connaissais aussi des personnes qui ont été des photojournalistes connues en Turquie, et je sais que s'il y a une manière de faire ce métier aussi, d'aller chercher des images avec les deux Leica accrochés au cou, parcourir l'Afrique, le Moyen-Orient, et puis aussi la Turquie, bien sûr. Et je trouvais que c'était vraiment romanesque, elle qui part sur les plateaux pour jouer voilà des personnages de théâtre ou de cinéma, et lui qui, avec son gilet multipoche et ses Leica, et voilà, qui part à l'autre bout du monde. Et puis, je voulais que leur amour soit grand aussi, et ce sont deux personnes vraiment passionnées et habitées. Et c'est vrai qu'en général, ça donne des amours absolument voilà, flamboyants.
Et donc, j'entends ce que vous dites, c'est d'FSR sur votre petite enfance où vous étiez donc sur les plateaux. Il se trouve que dans le roman, on apprend aussi que la mère d'Ezra était comédienne, que sa fille est scénariste à Paris, et cette dernière dit d'ailleurs qu'elle a hérité du virus des histoires, comme s'il y avait en effet de génération en génération une transmission. Est-ce que vous pensez aussi que la fibre artistique se passe comme un flambeau?
Ce n'est pas une règle, mais là, je voulais qu'il y ait cette lignée de femmes qui croient plus. Donc la grand-mère, en fait, il y a 4 générations de femmes dans le livre. Hein. La dernière est évoquée très, très brièvement sur une page tout à la fin. Mais donc il y a cette grand-mère qui a été la première actrice musulmane. Et là, je me suis inspirée d'une vraie actrice qui s'appelait Afife Jaale. Et c'était vraiment, elle a eu le courage de monter sur scène. Ensuite, je me suis inspirée d'elle, mais elle s'appelle dans mon roman autrement. D'ailleurs, je lui ai donné le prénom de ma grand-mère, ma vraie grand-mère. Donc, Hajar est née en 1905, dans une époque donc très tourmentée d'Istanbul. Ensuite, il y a cette mère qui est née en 1934 et il y a cette narratrice qui est née en 1965. Et je voulais que ces 3 femmes aient justement, oui, ce virus, cet atavisme de croire plus dans les fictions, avoir plus confiance dans les fictions que dans la vraie vie, parce que c'est un peu mon rapport au réel aussi. Comme j'ai grandi vraiment dans le cinéma, dans le théâtre, dès que j'ai ouvert les yeux, j'étais avec des adultes qui racontaient des histoires. Donc du coup, j'ai un rapport au réel, je pense, qui est un peu bizarre. Et en même temps, je trouve que voilà, cette narratrice a un problème avec ça, elle voulait fuir ça. Et à la fin, c'est aussi une réconciliation, parce qu'elle dit, c'est quand même une élégance, une noblesse d'être en dehors de toute logique, en dehors de tout réel, même si c'est très difficile, bien sûr, pour les gens qui nous entourent. Mais c'est comme ça, je sais pas, moi, je le ressens vraiment comme ça. Parfois, je suis plus à l'aise dans voilà, les fictions, oui, que la vraie vie.
Néanmoins, parlons du réel avec vous, CDFSR, parce que, pour revenir au roman, la vie de vos protagonistes va être fracturée par un événement terrible, la disparition d'Ishtak, le mari, le père, en 1970, et dont on n'aura plus jamais aucune nouvelle, ni de ce qui lui est arrivé, ni même de ce que son corps est devenu. Et là, il n'est plus possible d'ignorer la réalité, la politique du pays, parce que certainement, cette disparition, comme bien d'autres, est liée aux différents coups d'État qu'il y aura en Turquie de 1960 à 2016. Est-ce que pour le coup, ça a été difficile pour vous, CDFSR, de faire rentrer cette réalité dans la fiction, surtout quand il s'agit d'une réalité aussi dramatique?
Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, mon histoire était, en fait, ma dramaturgie, ma charpente était vraiment ancrée comme ça. Je voulais qu'il y ait une architecture vraiment rythmée par ces coups d'État. C'est-à-dire 1960, ils se rencontrent. 1971, quand la narratrice a 6 ans, le père disparaît. 1980, la fille va quitter la mère. Donc, elles vont s'éloigner de plus en plus. Et 2016, paf, un coup d'État raté qui va venir les réunir. Donc j'avais cette dramaturgie. Moi, j'aime bien avoir les cadres quand je commence à écrire. C'est peut-être une habitude qui me vient de mon écriture cinématographique et théâtrale, parce que je réfléchis toujours en termes de cadre. Si j'ai un cadre à l'intérieur de ça, je peux me permettre beaucoup de liberté. Mais si j'en ai aucun, ça part dans tous les sens. Donc ça, je l'avais vraiment en tête. Je m'étais dit, je vais commencer par cette histoire politique, et qui est quand même très riche en Turquie. Et là, par contre, il a fallu que je me documente beaucoup. Évidemment, j'ai regardé des kilomètres de documentaires, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres, des témoignages aussi, des disparus suite aux différents coups d'État. Et parce que après chaque période de crise comme ça, après chaque rupture de la vie démocratique, il y a bien sûr des choses qui se passent dans les sous-sols des commissariats, mais comme dans tous les pays, hein, en France, la France aussi a eu ses pages noires. Et donc, c'est quand même évidemment plus romanesque de trouver un personnage qui va faire partie de ce que j'appelle, moi, enfin, les sans sépulture fixe de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a même pas un corps pour enterrer. Et c'est là que, donc, il y aura toute une histoire avec cette rhizome de lotus qui va donc servir un peu de corps, de sépulture. Parce qu'en fait, les plantes trouvent de la place partout pour pousser, même sur les parkings. Et cette histoire des résiliences végétales me donnait de l'espoir par rapport aux pages sombres de l'histoire. Voilà.
Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor.
Vous Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Sedef Esser, auteur du roman Trésor national, paru aux éditions Jean-Claude Lattès, qui sur un demi-siècle raconte l'histoire de la Turquie et d'une de ses actrices les plus célèbres. Deux destins que vous liez très tôt dans l'écriture par une métaphore que vous allez filer tout au long du récit et qui commence dès la page 95 où Ulia, la narratrice, s'adresse à sa mère dans ce passage que vous avez la gentillesse de nous lire.
Vous étiez des jumelles, Istanbul et toi, dans ces années de mon enfance. Toutes deux, belles et laides, gaies et tristes, sombres et lumineuses, ternes et éclatantes, folles et sages, amnésiques et hypermnésiques, toutes deux trop maquillées, encore jeune et déjà vieille, sans âge, toutes deux marquées par de vieilles grandeurs et des fastes déchus, pleines de chantiers, de cicatrices mal refermées, de blessures de guerre, toutes deux gracieuses, flamboyantes mais abîmées par les histoires que vous aviez portées. Tu ressemblais réellement à cette cité bipolaire, ancrée sur deux continents, à cette vieille main couverte de bagues, comme disait Cocteau, ou à cette vieille folle de Byzance, veuve toujours vierge après 1000 ex-maris, comme disait Ficrette. Tu avais créé une sorte d'auto-orientalisme, je crois, Esra. Tu vivais cette ville-monde à la fois de l'intérieur et avec le regard d'une touriste. Tu portais en toi cet orient de pacotille, cette topographie aux formes généreuses, oui, disons-le, le harem tout entier, avec ses odalisques, ses favorites, ses sultanes et ses eunuques. Tu disais détester les mille et une nuits, ces vieux contes réchauffés au XIXe siècle par et pour les Occidentaux, et en même temps, tu réclamais ta part de Scheherazade. Le pont du Bosphore n'existait pas encore. Pour passer sur la côte asiatique, nous prenions souvent un vaporetto et nous nous mettions dehors car tu adorais regarder les coupoles du sérail doucement s'éloigner et tu imaginais un film sur le harem qui serait sélectionné au Festival de Cannes car justement, ça devait plaire aux Occidentaux. Et puis, au fur et à mesure que nous nous approchions du continent asiatique, les dauphins nous escortaient et pendant que je jetais des miettes de pain aux mouettes, les gens qui te reconnaissaient venaient te parler. Tu ne refusais jamais de signer un autographe, faire une bise à un admirateur, poser pour une photo ou prendre dans les bras un enfant. Tu étais comme Istanbul, comme cette ville fille de joie qui avait toujours adoré être entourée de courtisans. Comme elle, tu t'es offerte aux conquérants. Tu as trahi les tiens, comme elle, Esra.
Merci Sedef Esser pour cette lecture, cet extrait de votre roman Trésor national, où donc on entend ce portrait d'Ezra, dont sa fille dit « Tu as trahi les tiens. Pourquoi ?»
Bah, sans trop spoiler ou divulgacher, je ne sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire qu'elle va tomber amoureuse d'un homme alors qu'elle circule dans un milieu d'intellectuels de gauche que j'ai connu à cette époque aussi parce que voilà, les adultes qui m'entouraient faisaient partie de ce milieu plutôt. Et de temps en temps, évidemment, il y avait des gens qui étaient, qui pouvaient être soit de l'autre camp, mais ou alors se rendaient coupables par le silence, quelque chose comme ça. Et puis comme c'est une femme qui est à la fois engagée, etc., mais qui est en même temps capable de vivre des amours incroyables, enfin très passionnées, elle va se retrouver dans une histoire d'amour avec un homme qui appartient à l'autre camp. Et donc que sa fille ne va jamais lui pardonner. Voilà.
C'est donc un portrait aussi ambivalent que vous faites de cette femme et parallèlement de ce pays. Quel regard vous portez sur la Turquie aujourd'hui ? Est-ce qu'en effet, il y a à la fois une part d'amour et une part de rejet peut-être ? Je ne sais pas.
Ce que je dis aussi dans le livre, c'est que c'est vraiment mon pays d'origine que j'aime infiniment, mais c'est vrai que l'ancienne Turquie est en train de mourir. C'est un peu aussi la métaphore de cette femme agonisante, c'est-à-dire que c'est l'ancienne Turquie que j'ai connue qui est en train de partir. Et puis la nouvelle Turquie n'est pas encore là, elle tarde à venir. C'est un peu un monde qui est en train de qui est en train de se terminer, et puis on est entre ces deux mondes avec de l'espoir qui naît aussi peut-être de ça. Je ne suis pas totalement pessimiste, bien sûr, malgré beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas uniquement lié à la Turquie, à l'histoire turque, mais j'ai bien sûr un amour infini par son limon qui m'a nourri.
Votre narratrice a quitté la Turquie à l'âge de 16 ans, et vous ?
Moi, à l'âge de 20 ans. Mais ensuite, moi, je n'ai pas quitté comme elle totalement. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. J'ai énormément travaillé en Turquie. Je fais encore des webinaires. Enfin, j'ai vraiment des ateliers, etc. Pendant le confinement aussi, je suis présente digitalement. Moi, je n'ai jamais quitté totalement la Turquie. Non, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Ouais.
En tout cas, à travers le portrait de cette femme, Ezra se pose aussi la question de l'engagement de l'artiste. On lui demande des comptes, finalement. Quand elle est amoureuse et mariée à Ishtak, évidemment, tout va bien. En plus, elle est vraiment au sommet de sa gloire. Ensuite, quand il disparaît et qu'elle va avoir une autre histoire d'amour avec cet homme de pouvoir que vous évoquiez tout à l'heure, ses amis vont s'étonner, mais c'est nécessaire. Est-ce qu'une comédienne doit être engagée, entre guillemets ? Est-ce qu'on doit savoir de quel côté balance le cœur d'un artiste ?
C'est un sujet qui me préoccupe tellement que je pense effectivement qu'il traverse le roman pas mal. Parce que je sais que je me dis jamais, quand je me mets à écrire quelque chose, j'ai maintenant une trentaine de fictions derrière moi, et à chaque fois, mais jamais je me dis que je vais écrire quelque chose de politique. Mais malgré moi, ça devient politique à un moment donné. Police, la cité, parce que voilà, on écrit avec son vécu, avec ce qu'on voit, avec son expérience. Après, moi, je pense que à aucun moment, je suis obligée de. D'abord, je ne suis ni sociologue, ni politologue, politicienne, donc je n'ai aucune obligation de m'engager pour dire quelque chose. Moi, je suis un personnage, je suis une histoire, j'ai des situations et j'écris, voilà. Et quand je suis pareil sur un plateau avec des comédiens, j'essaie de faire entendre une histoire. Mais par exemple, on lui dit à un moment donné, mais votre féminisme, c'est un féminisme de boudoir. Et elle dit, alors, Colette, elle a jamais dit qu'elle était engagée, mais elle a écrit les plus belles pages sur le féminisme. Donc, voilà, je suis un peu, je pense, comme c'était Esra, on peut vivre. Et puis, vous savez, il y a des gens qui sont de gauche, qui vivent comme s'ils étaient de droite. Il y en a qui sont de droite, qui ont des vies des gens de gauche. Donc, voilà, on n'est pas obligé non plus d'être cohérent. Et puis, un artiste est plein de contradictions, comme tout être humain. Et voilà, elle a aussi, elle a ses faiblesses, elle a ses failles. Et en même temps, elle n'hésite pas quand même à se mettre en danger pour... elle a plein d'activisme aussi, cette femme. Elle est activiste aussi, enfin, on va voir dans le roman.
Pas autant qu'une de ses amies, qui elle est une artiste activiste et qui va être arrêtée et aller en prison. Ça, c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur, CDFSR, de parler de ces artistes qui, pour leur travail tout simplement, ou leur prise de parole, qui parfois est considérée comme étant de l'opposition, se retrouvent derrière les barreaux.
Oui, cette femme a été donc, juste après le coup d'État de 1980, a été emprisonnée dans une prison pour femmes qui était très connue par les traitements absolument ignobles. Et elle a eu cette expérience-là, et il se trouve que, comme beaucoup de gens, je connais des gens qui ont été en prison à cette époque, puis qui continuent aussi. Parfois, il y a des gens qui vont en prison juste pour une phrase lâchée sur Internet, et puis ils en sortent pas. Enfin bon, bien sûr, ces mauvais traitements, etc., c'est quelque chose qui nous préoccupe tous, et puis c'est une injustice absolue. Donc j'aime bien ce personnage de Meilleure Copine, qui est une plasticienne scénographe, et je trouve que dans les années 60, il y avait des femmes comme ça qui étaient même en avance par rapport à... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que parfois je me dis qu'on regarde l'histoire du féminisme en France de manière très ethnocentrée, alors qu'au Moyen-Orient, il y a eu un féminisme magnifique. Voilà, donc je voulais l'incarner à travers cette femme.
Est-ce que vous voulez dire, c'est nécessaire que ce n'est pas la même chose d'être féministe en Turquie et féministe en France ?
Bah, chaque pays a ses spécificités de toute façon, mais on a tendance à ignorer. On a l'impression que le féminisme est né que en Occident, alors que je raconte justement avec la grand-mère comment elles étaient activistes au début du siècle, au début du XXe siècle. Et il ne faut pas oublier que les Turcs ont obtenu le droit de vote 10 ans avant les Françaises. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, les femmes turques avaient le droit d'avoir un chéquier, un compte en banque, alors que les Françaises n'en avaient pas. Enfin, voilà, il faut pas non plus penser que le féminisme ne vient que de l'Occident. Et en plus de ça, il y avait le composant religion qui était plus fort. Ça veut dire que ces femmes-là ont été obligées de se battre encore plus pour avoir leurs droits. Voilà, donc de temps en temps, je me dis que faut pas être trop ethnocentriste sur les histoires de féminisme.
Mais en même temps, qu'en est-il aujourd'hui en Turquie ?
Il y a un féminisme fort, je sais, puisque je connais des jeunes qui sont vraiment activement dedans, qui est très très fort. Et puis, bien sûr, il y a aussi une répression beaucoup plus forte, qui n'est pas comparable avec la France quand même, parce que c'est un combat de tous les jours, c'est-à-dire prendre un transport public avec une tenue qu'on qualifie pas de décente, c'est déjà un acte féministe tous les jours. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu plus difficile là-bas, en tout cas plus quotidiennement un combat là-bas que ici, je pense.
De même que vous abordez aussi par le biais d'un personnage, d'une des amies d'Ezra, la question des transgenres. C'était ça vous tenait à cœur, ça aussi, d'avoir dans l'entourage de votre comédienne une des premières femmes qui a décidé de son sexe, et là on est dans les années 70 aussi, hein.
Bah, cette histoire de reconversion administrative, oui, c'est intéressant. En plus, moi j'ai eu énormément d'amis. J'ai été dans les années 4, début des années 80, mon adolescence, vraiment je l'ai passée avec la troupe de la Cage aux Folles qui a joué des centaines de fois en Turquie. C'était la pièce qui avait vraiment un succès énorme, et j'ai eu la chance de connaître la grande voix, Zeki Müren par exemple. J'ai été proche, pas très proche dans son entourage, mais j'ai eu la chance de côtoyer cette personne et d'autres qui étaient vraiment, c'était les premières chanteuses de cabaret qui faisaient ça. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce milieu-là qui était... Et puis, c'est aussi mon héritage, je pense, des mélos turcs. J'aime les paillettes, les plumes. Bon, on a lu une partie un peu, peut-être austère, mais il y a aussi des épisodes très baroques, je trouve, dans le roman. Enfin, en tout cas, même la couverture, c'est moi qui l'ai choisie parce que j'aime ce côté très... voilà, flamboyant de ces années-là, un peu kitsch même, cette esthétique baroque avec et c'est vrai que j'ai grandi dans la Cage aux Folles, donc ça fait partie de mon héritage, je pense, de mon héritage narratif, je pense. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans ce roman. Je pense que il y a des moments où, enfin, moi j'ai des amis qui ont lu, qui ont dit qu'il y avait des pages où ils avaient beaucoup ri, ou ils avaient trouvé ça très baroque, voilà. Et enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, voilà.
Avec panache.
J'ai essayé,
avec panache. Ouais. Merci beaucoup, Sedef Esser. Je rappelle donc le titre de ce roman, Trésor national, qui est encore une invention de votre part, mais ça, nous n'en dirons rien. C'est au lecteur de découvrir ce qu'est le Trésor national. Un roman qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. Vous avez